Capidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique.
C'est parti.
Salut Lynn.
Salut Alessandra.
Et salut Chloé.
Et salut.
Une troisième voix avec nous aujourd'hui.
Ouais.
On va parler voyage.
Yes.
Parce que mesdames, vous avez la grande chance de revenir de voyage. T'es partie où Chloé alors?
Moi j'étais au Japon.
Au Japon.
Ouais. C'était le grand voyage parce que j'ai fini mon diplôme là en septembre et puis je commence un nouveau boulot. Enfin, j'ai commencé il y a 2 semaines et du coup, je me suis offert 1 mois avec des appuis financiers nombreux.
D'accord.
Et bien c'était cher. Ouais, c'était cher. Mais ça valait vraiment la peine. J'ai pu passer 1 mois au Japon. Ouais.
T'es allé où un peu?
Alors, justement, dans les appuis financiers, j'ai reçu un Rail Pass, un Japan Rail Pass. Donc, c'est un peu comme l'Interrail pour l'Europe, en fait. Donc, t'as accès au train pendant une durée. Là, je l'avais pour 2 semaines. Donc, j'ai fait une semaine à Tokyo pour digérer le jet lag. Là, on a tout un débat sur Est-Ouest. Moi, je le trouve très violent quand tu vas d'Est en Ouest.
Ouais.
Non, d'Ouest en Est, voilà.
Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Ça veut dire que quand t'es reparti du Japon pour la Suisse, c'était plus dur.
Non, justement.
Ah, dans l'autre sens. Ouais. Ah non, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je suis entièrement d'accord.
Ah, t'es d'accord. Ouais. Ah ouais. Donc, ouf. Et après, bon, je me suis baladée pendant 2 semaines. J'ai pas mal voyagé. Du coup, je peux vous dire juste les villes comme ça, un peu pour le plaisir des noms. De Tokyo, je suis allée à Takayama, qui est un petit village assez touristique dans les Alpes japonaises. J'arrête pas de faire du bruit avec mes mots. Et de là, donc là, c'était assez chouette de prendre le train pour ça, en fait, parce que les trains sont hyper confortables au Japon. Déjà, de base, moi, j'aime bien prendre le train, mais là, t'as vraiment de la place pour les jambes. Et puis là, c'était un train qui allait dans les montagnes, donc c'est des trains spéciaux avec des vitres immenses pour que tu puisses vraiment profiter du paysage, comme ça. Mmh. Donc t'es posé, t'as ta musique, ta petite bento box, parce que ça, c'est tellement bien dans les gares. Tu passes 3 heures à choisir ta bento box avant de prendre le train, parce que tu sais pas quoi choisir, parce que tout a l'air trop bon.
Et puis dans une dimension esthétique aussi, comme c'est
présenté. Ouais, mais même les trucs, c'est tout bête de base, quoi, qui coûtent 5 balles, comme ça, ils peuvent pas s'empêcher de faire un truc super chou, ça c'est trop bien. Et puis de Takayama, je suis allée à Kanazawa, qui est un peu plus connu, parce qu'il y a un super musée d'art contemporain qui s'appelle le Musée du 21e siècle.
Wow. Ah, wow.
Ouais, bon, qui est tout petit, mais qui est vraiment bien, enfin, il y a des super belles pièces.
Mais du coup, qui est tout neuf.
Il est assez neuf, ouais, mais pour au Japon, enfin, tu vois, pour le Japon, c'était pas non plus ce que j'ai vu de plus contemporain, moderne. Je sais plus.
Tu dis comme bâtiment,
ouais.
Comme
ouais. Okay. Ouais. Après les pièces, bon, ouais, c'est de l'art contemporain.
International.
Oui. Mmh. Ouais. Et puis vraiment super qualité. L'architecture est géniale. Je me souviens plus du nom de l'architecte du lieu, mais vraiment super bien pensé, quoi. Mmh. Et il y a aussi un des 3 plus beaux jardins du Japon. Et ça, c'est vraiment des trucs que j'ai préférés. Ils sont hyper forts pour ça, les Japonais. Et notamment pour la mousse, c'est génial.
Oh, oui.
Ils entretiennent la mousse, mais tu vois, avec un soin comme ça, une tendresse, vraiment juste... Genre là, c'était trop joli parce que c'était le début de l'automne. Enfin, il faisait encore super chaud quand j'y étais. Il faisait bien 25-30 degrés. Mais tu commençais à avoir des feuilles mortes. Donc, tu avais les jardiniers qui étaient accroupis sur la mousse et qui ramassaient les feuilles à la main. Une à une, comme ça. Je les ai filmés, faudrait vous montrer ça.
Parce que l'entretien, c'est de la nettoyer, en fait,
voilà.
C'est ça ?
Et puis, ils ne peuvent pas passer de ça avec la souffleuse ou avec un râteau. Ils ont des petits balais exprès pour caresser la mousse, comme ça. C'est génial. C'est trop bien. Et de là, je suis redescendue plus au sud. Je suis allée à Osaka.
Excuse-moi, mais parce que tu disais que c'était plus connu, il y a une dimension plus touristique internationale ou c'est...
À la ville de Kanazawa. Mm-hmm. Oui, parce que Takayama, où j'étais, c'est vraiment un village dans les montagnes. Kanazawa, c'est une ville en fait sur la côte. Et voilà, c'est plus. Enfin, typiquement, je me verrais bien vivre là-bas, quoi.
Ça t'a plu.
Ouais, très agréable. Et ouais. Et après, j'ai enchaîné sur une grosse ville, Osaka, qui est une ville portuaire. Aussi avec un vieux quartier, un peu des années 60, un quartier de. Je sais pas comment tu peux dire, où il y a plein d'endroits un peu pour sortir, mais c'est... T'as l'impression que dès que ça a été construit, c'était déjà vintage, en fait. Parce qu'avec l'humidité, il y a tout qui tombe un peu en ruine. Mmh. Puis en même temps... Enfin, je sais pas, c'est assez beau, quoi. Il y a quelque chose de...
Puis comment tu organisais ton voyage en fait? Tu te laissais un peu porter en disant bah, grosso modo, je passe tant de temps là, ou t'avais plutôt...
En fait, on m'avait conseillé de... Enfin, mon oncle qui va souvent là pour son travail, il aime bien voyager en général. Et en fait, il a eu cette mauvaise surprise de voir qu'au Japon, si tu réserves pas à l'avance tes hôtels, c'est super compliqué. Ils aiment pas du tout l'imprévu, en fait.
D'accord.
Donc, moi, j'avais tout réservé à l'avance, aussi pour des questions de budget, parce que je m'étais dit, je veux pas risquer de devoir tout d'un coup payer hyper cher parce que je trouve rien.
Oui, tout à fait.
Donc là, pendant mes 2 semaines de train, je savais où j'arrivais à chaque fois. Et ouais, donc ça, c'est... Autant c'est hyper agréable et simple de voyager au Japon, autant il faut quand même... Il y a ce petit détail-là. Ça vaut la peine de réserver, ouais.
Bon, après, comme tout, ça a plein de dimensions, mais peut-être c'est plus reposant quand tu étant seul, où t'es pas tout le temps en train de réfléchir, est-ce que vraiment je suis bien là, ou je serais mieux en allant ailleurs. Ouais. Enfin, ça peut aussi un petit peu poser.
Ouais, puis tu n'as pas ce temps-là à consacrer pendant le voyage à réfléchir à où est-ce que je vais dormir la prochaine fois, essayer de comparer les prix, de réserver. Là, t'es vraiment... Bon, ouais. Pour 2 semaines, en tout cas, c'était super agréable de faire comme ça. Après, je sais pas, à long terme, c'est peut-être un peu...
Parce que t'as fait donc 1 semaine plutôt posée.
1 semaine à Tokyo, voilà. Deux semaines où je me suis beaucoup baladée. Et puis après, j'ai passé encore 1 semaine à Kyoto avant de revenir à Tokyo. Ouais, puis en même temps, ça m'a l'air super court. Enfin, j'ai l'impression d'avoir rien vu, quoi. Mais ouais.
Et les gens, comment t'as pu un peu rencontrer... Les rencontres sont faciles, les conversations, comment ça se passe?
Ben, écoute... Oui.
Parce que tout le long, t'as voyagé seule.
Ouais. Ouais, j'ai rencontré... Alors, dans les auberges de jeunesse, tu rencontres toujours des gens.
Des gens d'où, enfin,
J'ai rencontré... j'ai rencontré pas mal de Français, en fait.
Ok.
Il y avait aussi... c'est assez drôle parce qu'en fait, il y avait des Asiatiques de temps en temps. J'ai rencontré une fille de Hong Kong et une Japonaise. Et c'est un truc que j'avais déjà vu, qui m'était déjà arrivé avant en Asie. C'est que t'as une sorte de... Enfin, tu te rends compte que t'es blanc, en fait. Mais t'as cette espèce... Ce décalage hyper bizarre parce que les gens sont hyper enthousiastes. Les filles, elles ont ce côté tout de suite, « Ah, mais t'es trop belle !» Et puis, « Ah, mais c'est trop génial !» Enfin, puis t'es clairement pas au mieux de ta forme, t'es dans des blagues, et puis tu voyages.
Mais tu dis oui, d'accord.
Et tu sais que tu peux faire mieux, tu vois, puis t'es là, bon. Et c'est assez bizarre, parce qu'en même temps, c'est super gentil, puis en même temps, c'est un peu désagréable, et tu sens que les gens s'intéressent à toi pour ce que tu représentes, clairement. Et bon, après, voilà...
Ça marque la différence.
Ouais. Moi, je la sens en tout cas. Enfin, c'est un rapport avec lequel je suis pas toujours à l'aise, quoi. Ouais.
Mais moi aussi, quand j'avais été en Chine, là, il y a 3-4 ans, il y avait aussi vraiment, bon, déjà cette chose où tu te rends compte que tu es blanche. En tout cas, les gens, ils te le font remarquer dans la rue. Enfin, vraiment, moi, on me pointait du doigt, et pas du tout, on me pointait du doigt à 100 mètres, on me pointait du doigt en mettant un doigt devant mon nez.
Vous voyez ta dimension blonde, peut-être, aussi, qui est très flash.
Ouais, je pense juste en général, un peu. Ouais. Mais peut-être que oui, la dimension blonde, peut-être ça ajoute à ça. Mais aussi, ouais, cette chose que tu dis, que moi, du coup, il y avait beaucoup de Chinois, en fait, et Chinoises qui voyageaient au même moment que je voyageais en Chine, parce que c'était proche du Nouvel An, du Nouvel An chinois. Et du coup, je dormais dans des auberges mixtes, dans des dortoirs mixtes, et du coup, j'ai rencontré autant des filles que des garçons. Et les filles, justement, il y avait vraiment cette approche super gentille, et puis aussi, du coup, quelque part un peu exotique aussi, en disant « oui, t'es trop belle ». Mais après, il y a aussi une sorte de protection un peu « je vais te montrer ci », je vais te montrer ça, viens avec moi, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et une fois à Tsingtao, j'avais vraiment rencontré une fille qui m'avait pris sous son aile, qui m'avait amené voir des montagnes sacrées et qui en fait m'appelait Sweetie. pendant les 2 jours qu'on a passé ensemble, on me disait tout le temps Sweetie, Sweetie, viens avec moi Sweetie, en anglais. Et puis ça aussi je trouvais très impressionnant en Chine, en fait les gens se tiennent beaucoup par la main. Et moi j'ai en fait un peu un problème avec la proximité physique, ça se travaille avec moi. Et du coup elle me prenait par la main en fait, un peu dans la rue comme ça, partout où on allait. Et j'étais tellement contente qu'il fasse froid, parce que du coup on avait les deux des gants.
Ça mettait
déjà une petite barrière. Ouais. Mais du coup, en fait, les hommes ou les garçons que je rencontrais dans les dortoirs, leur première question, c'était si j'étais mariée.
Mmh. Ouais, ouais. Bon, moi, alors justement, parce que... Mais en Chine, t'as ce côté aussi vachement... Enfin, au Japon, il y a une sorte de pudeur qui fait que... Moi, je me suis sentie quand même vachement plus à l'aise qu'en Chine, des fois. Enfin, c'était quand même plus facile parce qu'ils manifestent moins cette fascination exotique.
Mais peut-être qu'on peut juste dire que toi, tu as fait des études en chinois.
Ouais, du coup, j'ai passé 6 mois à Pékin et une année à Taïwan. Et ça, c'était assez drôle d'arriver au Japon parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai envie d'aller au Japon. Et du coup, c'était vraiment le gros truc. Et en fait, je suis arrivée là-bas et je me suis pas sentie si dépaysée que ça. Mais c'est vraiment, je me suis dit, ah, c'est un peu la Chine, mais en super confortable. En tant que blanche occidentale, où tu retrouves plus vite tes repères, les gens sont hyper aidants et gentils. Alors qu'en Chine, il y a vraiment un côté beaucoup plus brut de décrefrage, qui est aussi assez sympa suivant les trucs, mais qui peut être quand t'es fatiguée et que, qui peut être un peu dur à gérer des fois. Et ouais, alors moi par contre, en Chine, j'avais ce truc avec les garçons, c'est que tu. T'existes quasiment pas en fait. Ou disons qu'il y a une sorte de. Moi j'avais l'impression de provoquer une certaine crainte. Ou alors tout d'un coup s'ils m'abordaient, c'est un peu que. Tu vois, ils voulaient montrer un peu qu'ils avaient pas peur et qu'ils venaient me parler. Mais moi j'avais l'impression d'être. Il y avait un truc hyper bizarre, comme si t'avais une bulle de protection en tant que fille blanche. Il pouvait absolument rien t'arriver. Enfin, moi, de rentrer à 2h du matin toute seule la nuit, j'ai jamais eu peur en Chine. Mmh. Après, j'étais à Pékin, qui est une monstre grosse ville, hyper occidentalisée. Mmh. Donc, je sais pas si ce serait pareil partout. Mais il y a un truc... moi, j'ai d'autres amies qui m'ont dit ça aussi. Alors, moi, j'ai pas forcément perçu ça comme ça. Mais qu'elles, elles étaient déstabilisées en Chine parce que il y avait aucun rapport de séduction. Alors que les mecs ils se font tout le temps, les mecs occidentaux en Chine ils se font tout le temps aborder par des filles pour des massages ou juste de la prostitution cash, enfin comme ça. Mais même s'ils se baladent avec leurs copines la main dans la main, enfin il y a un truc hyper étrange quoi à ce niveau là.
Je réfléchissais, tu dis y a pas, puis est-ce que ce serait d'autres codes qui fait que c'est pas perçu comme tel?
Ouais, ouais, complètement.
Parce que la dimension aussi d'une femme qui voyage seule, par exemple, quand tu racontais ta facilité de contact avec des jeunes femmes japonaises, il y avait un peu de l'envie ou c'était impressionnant. Enfin, tu vois, est-ce que c'était une dimension qui était relevée dans vos échanges?
En fait, on m'a fait la remarque une seule fois. C'était une vendeuse et puis elle m'a demandé si je pensais que c'était vraiment safe de voyager seule. Et j'étais là, mais je pense que le Japon, c'est le pays le plus safe du monde pour voyager seul. Enfin, vraiment, ouais. C'est... Et d'ailleurs, j'ai rencontré un Français qui a fait du stop et qui m'a dit qu'il avait voyagé en stop. Et chaque fois que les gens s'arrêtaient pour le prendre en stop, ils disaient « mais faut pas faire ça, c'est très dangereux ».
Mais je vous prends, moi, je suis quelqu'un de bien.
Exactement. Mais sinon, ça a été peu manifesté. Par contre, je pense qu'il y avait quand même une sorte de petite incompréhension, mais... je sais pas, bon moi j'ai passé qu'un mois au Japon donc c'est dur de faire des généralités, de dire ce que les gens pensent, mais c'est clair que ce côté pas marié aussi, j'ai l'impression que c'est quand même un truc encore assez fort.
Ouais.
Donc ça a un poids social. Disons que si tu choisis de pas rentrer dans ce cadre là, tu fais vraiment un choix très fort et tu dois l'assumer après socialement quoi.
Mais moi par exemple quand j'avais été en Chine donc il y a 4 ans, j'avais acheté le guide Lonely Planet et dans le guide c'était écrit que les femmes devaient pas, c'était déconseillé aux femmes de voyager seules.
Ah ouais.
Mais par contre moi j'ai jamais eu de problème non plus. Bon. Enfin, j'ai eu des gens qui ont été désagréables mais j'avais plus l'impression que c'était lié au fait que j'étais blanche et qu'ils avaient pas envie de discuter avec des touristes à ce moment là.
Ouais.
Et du coup je me faisais parfois remballer dans des restos ou dans des taxis.
Non, ben moi j'ai aussi cette sensation-là que t'as quand même ce décalage en Chine populaire qui reste quand même un pays relativement fermé. Et je connais pas très bien la question, mais je crois que la législation elle est différente pour les Chinois et les non-Chinois ou les Occidentaux et que eux risquent beaucoup en fait à agresser des Occidentaux.
Ça coûterait plus cher d'agresser.
Moi je pense qu'il y a. Alors est-ce que c'est vraiment juridique ou est-ce que c'est que symbolique? Mais t'as quand même. C'est qu'il y a quand même un côté post-colonial qui est encore assez marqué quoi. Enfin vraiment où l'Occident c'est ce qui est bien. c'est la fascination et le rejet en même temps. Et ben, toi, tu portes ça avec ton corps, avec ce que... Ouais.
Mais alors toi, Chloé, t'es partie 4 semaines. Et en fait, moi, je viens du coup de partir 2 semaines. Je suis rentrée hier soir. Et je trouve toujours étrange, en fait, en voyage, comment le temps, il passe ou il ne passe pas.
Ouais.
Et depuis, vu que moi, j'ai emménagé en Suisse à l'âge de 11 ans, et ben, dès l'âge de 11 ans, j'ai fait beaucoup de voyages entre la Suède et la Suisse. Et j'ai toujours eu ce moment où tu passes la porte de sécurité, où tu vas t'asseoir dans l'avion, où tu passes un moment, tu passes par un endroit dans la ville où tu passes souvent, et puis tu te dis, ah bah dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, je vais repasser par ici, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce moment arrive en même temps, dans tellement longtemps, et en même temps très vite en fait, c'est assez impressionnant. Mais du coup, comment... Parce que moi, là, vraiment, du coup, ce voyage que j'ai fait aux États-Unis, c'est passé très vite. Enfin, j'ai presque pas vu passer, en fait. Et du coup, est-ce qu'au Japon, il y avait un... Enfin, au Japon, je dis pas que c'est le Japon qui donne le temps, mais est-ce que pendant ton voyage, c'était... Parce que seul... moi, je suis partie à deux, mais seul, le temps aussi peut passer différemment.
Ouais, complètement. Bah, je sais pas, c'était... Moi, c'était vraiment parce que ce que tu décris là, ce côté ça, de prendre l'avion et d'avoir cette sorte de sas un peu comme ça. Moi, j'avais, justement, je m'étais intéressée à ça parce que ça a été analysé du point de vue de la théorie des rites de passage en anthropologie, où vraiment tu as un stade préliminaire, ah, tu vas passer la douane, et là, tu te dépouilles de tes affaires, tu passes à travers le sas, etc. Puis tu as un stade liminaire, où en fait, tu appartiens... Oui. Et ça, c'est fascinant avec les aéroports, parce que tu n'es plus en Suisse, mais tu n'es pas au Japon.
Ouais.
Tu n'es nulle part, en fait, dans cette zone de l'aéroport. Et ensuite, tu prends l'avion, et après, ce long rite de passage trop chiant, je déteste les aéroports, et ben, tu peux renaître à une vie nouvelle dans un autre pays. Et puis, moi, c'était vraiment... Il y avait ce côté-là, parce que j'ai fini mon diplôme, et puis j'ai pris ce mois-là de pause, un peu, qui m'a fait une sorte de transition vers un nouveau rythme de vie et tout. Et c'était vraiment parfait, en fait. Et du coup, la temporalité, elle était... t'avais le fait de prendre le train souvent et tout, et puis de... Enfin, moi, j'ai assez mal vécu le retour, là, justement, de devoir changer de rythme, en fait. Mm-hmm. De plus pouvoir juste suivre. Parce que quand t'es seul en voyage... Alors, il y a des moments où tu t'ennuies, où bon, maintenant, il y a Facebook.
Oui, il y a on a remarqué un
Instagram, ma chère.
Ouais, c'est ça. Ils ont une utilisation. Genre, tu rentres le soir, t'es un peu tout seul à l'auberge, mais voilà, t'as Internet. C'est un peu triste, puis en même temps, voilà. C'est pas mal, en fait. Franchement, moi, je trouve
bon,
que
de l'autre
pas mal.
Côté, de recevoir tes messages photographiques, voilà. Et tout ça, ou les tiens, parce que les deux miss, vous utilisez ça, c'est hyper chouette.
Ouais, moi, j'adore recevoir. Aussi des trucs que les gens racontent quand ils sont là-bas, ça te fait quand même un petit... Moi j'aime bien ça. Mais après, c'est l'autre côté que j'adore de voyager seule, c'est que tu suis complètement ton rythme. Alors bien sûr qu'à très long terme c'est pas possible, mais là c'est hyper jouissif de suivre vraiment à un moment tes envies, tes trucs et et du coup ça fait une temporalité assez particulière. Alors en même temps j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps, tu vois, alors que c'était, je suis rentrée il y a deux semaines, trois.
Ouais.
Et c'est parti. Toi, je sais pas, justement, du coup, tu disais que t'étais à deux, puis en plus, t'es partie peut-être un peu moins longtemps, peut-être, je sais pas, le fait que la langue, toi, tu parles bien anglais, enfin, je sais pas, parce que...
Ouais, et puis je pense que le dépaysagement, il était pas aussi, aussi rude, en fait.
Ouais, je sais pas, en même temps, moi je pense que la Californie ou le Texas, ça me...
Bah, le Texas, justement, quand on est parti au Texas, on est parti exactement le même nombre de jours et j'avais l'impression d'être parti trois mois. Enfin, c'était vraiment... Et c'était génial, en fait. Je suis rentrée dans un rythme où je voyais plus la fin ni le début. Et ça, c'est vraiment... quand on rentre en ce moment dans un voyage, c'est super. Alors que là, maintenant, là, quand on était en Californie, j'ai souffert du jet lag comme je n'ai jamais souffert.
C'est l'âge.
C'est ça. Ah, mais c'est incroyable.
Non, mais c'est impressionnant. Hein, le corps, il te dit, là, c'est la nuit. Puis en fait, non, tu dis, non, ce n'est pas la nuit, c'est 8h du soir. Je vais encore aller manger. Puis en fait, ouais.
Est-ce que tu as un peu des... Justement, on parlait de photographie. Est-ce que tu as un peu des photographies auditives à nous partager, des images que tu as regardées?
Il y en a une qui m'a vachement marquée. C'est, de nouveau, c'est un truc assez touristique, mais qui vaut quand même la peine, c'est un endroit qui s'appelle le Koyasan. C'est une... Dans les montagnes, c'est un lieu où il y a beaucoup de temples, en fait, très anciens. Mais surtout, il y a un immense cimetière dans la forêt. Et c'est assez magique parce qu'il est vraiment très, très grand. Donc, il y a des tombes assez contemporaines. Et ça, c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est, les... c'est des entreprises qui offrent des tombes à leurs employés. Donc, il y a des tombes Mitsubishi ou des tombes, je sais pas, là, il y en avait une en forme de fusée. C'était assez...
Puis qui garde la pub de...
Ah ouais, ouais. Il y a la marque de l'entreprise sur, le, sur la tombe.
Puis, c'est les... non, comment tu dis ? Labellisé.
Ouais, ouais, c'est ça. Jusqu'à dans la mort, quoi. C'est beau. Et t'as des tombes beaucoup plus anciennes, ou qui donnent l'impression d'être anciennes, parce qu'elles sont dans la forêt, donc elles sont toutes mangées par la mousse, un peu comme ça, complètement décaties. Et puis, il y a tous ces petits... alors, je connais pas très très bien, mais c'est des petits bouddhas, c'est les jizo, qui sont des petits bouddhas dédiés, je crois, aux enfants. Puis, en fait, ils leur mettent des sortes de bavettes, des sortes de petites bavettes en tissu. Ah. Et il y en a plein partout, donc c'est vraiment un peu peuplé, comme ça, de petits visages tout couverts de mousse. Et ce cimetière, tu peux y aller de nuit, en fait. Il reste accessible. Il y a un petit chemin qui est éclairé avec des visites faites par des moines. Et en fait, j'y suis allée et je me suis dit, ah, c'est dommage, j'aurais dû prendre ma lampe de poche parce que j'aurais pu... Mais en fait, ça fait tellement peur.
Wow.
C'est génial, c'est génial. Mais tu vois les fantômes. Enfin, tu sais, tu sens un peu tout le potentiel. Puis les Japonais ont hyper peur des fantômes. C'est un truc encore assez présent, apparemment. En Chine aussi, il y a plein d'histoires de fantômes. À Taïwan, il y avait une histoire géniale qui était sortie dans la presse d'un GPS fantôme, en fait, qui avait guidé exprès son conducteur dans une zone reculée de la montagne. Où une vieille femme qui avait été retrouvée, genre, 3 jours, qui avait disparu pendant 3 jours, puis elle avait été retrouvée sans ses vêtements. En fait, elle a expliqué qu'il y avait un esprit singe qui s'accrochait à ses vêtements. Du coup, elle avait dû courir et enlever tous ses vêtements pour se débarrasser de lui. Enfin, c'est des trucs encore très, très forts et très présents qu'on a de la peine à aborder comme ça, parce que c'est pas du tout dans notre culture. Mais là, pour le coup, dans ce cimetière de nuit, j'ai vu un peu le... Tu vois ?
Le potentiel.
Le potentiel fantomatique.
Parce que justement, toi, t'es historienne des religions. Est-ce que c'était du coup un angle pour toi que t'as suivi pendant ton voyage ? Est-ce que t'as posé un œil particulier sur cette thématique-là ?
Ben, je t'avoue que oui, au début, je me suis dit, en plus, il y a beaucoup de temples encore, c'est quelque chose de très contemporain. Et puis en même temps, moi, j'ai pas spécialement travaillé sur le Japon, j'étais un peu plus sur la Chine ou sur les théories épistémologiques de ce que c'est que la religion, etc. Mais en fait, il y a vraiment un truc en même temps autour des temples où il y a une sorte de fascination. Et puis en même temps, t'en as vu deux, tu les as tous vus. Ça devient très vite ennuyeux. Et en même temps, il y a un truc qui est fascinant, en fait, si tu le prends d'un autre côté, de voir ce que c'est aujourd'hui, parce que c'est vraiment un des premiers arguments touristiques. Enfin, dans les guides, on te liste toujours les temples qu'il faut aller voir. Et là, moi, j'en ai vu, mais il y avait enfin, t'avais l'impression d'être à Venise, quoi. C'était insupportable. Il y avait vraiment des masses de touristes. Et en même temps, c'est marrant parce qu'en parallèle, il y a encore une vie religieuse présente, genre t'as des moines qui font leur cérémonie, t'as une sorte de grillage comme ça, puis les touristes derrière. Alors après, touristes ou pratiquants ou croyants, c'est à quel point est-ce que t'es l'un ou l'autre. Enfin, moi, je suis complètement extérieure à ça. Mais... Puis t'as tout le rapport aussi financier, parce que t'as, ou enfin plutôt de l'argent, parce que t'as ce discours de dire ah, mais c'est horrible parce que on monétarise le sacré, ça devient juste un business. Mais le sacré, entre guillemets, ou la religion, ça n'a jamais été séparé de l'argent. Les moines, ils ont toujours eu besoin de manger, d'être nourris. Alors, soit c'était des offrandes, etc. Puis, du coup, ce discours de dire c'était mieux avant, c'était plus pur quand il n'y avait pas le tourisme, c'est quelque chose que je trouve pas du tout convaincant, quoi. Sinon, j'ai pas vu plus que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses assez belles au Japon. Moi, je suis assez fascinée par l'esthétique aussi, par justement tous ces statues de divinités... Il y a Inari, ce dieu renard, qui est super chouette.
Je connais pas.
Parce qu'au Japon, en Chine, en Asie, en fait, les renards, c'est vraiment des personnages assez importants dans le monde, on dira, mythologique. Mais ce qui est assez sympa, c'est que c'est vraiment des personnages un peu fourbes.
Tout à
fait.
Donc
souvent, ils prennent des aspects humains. Et en fait, on découvre, après tant de temps, que cette personne-là, très riche, qui a fait plein de choses, en fait, c'était un renard. Mais en général, c'est même une renarde, plutôt. Ouais. En fait.
C'est une figure aussi très mobilisée dans les mythologies plutôt amérindiennes.
Ok.
Ouais. On retrouve la figure de la renarde. Ouais.
Mais en suédois, il y a un proverbe qui dit « malin comme un renard ».
Oui.
On peut dire en français aussi.
Malin oui, comme un singe, plutôt.
Ah, est-ce qu'on dirait...
Mais t'as une figure de renard, ouais, dans la littérature du Moyen-Âge français. Maître renard, c'est un... ils ont grand. C'est un renard hyper malin.
C'est ça, en fait, il y a une dimension au-delà, enfin, d'utiliser le côté malin pour tromper. Et c'est vrai que peut-être, c'est peut-être malin comme un singe, mais fourbe comme un renard.
Mais moi, je voulais aussi, si ça te dit de nous en parler, parce que tu m'avais déjà parlé un peu des bains publics au Japon.
Ah ouais. Ouais, ça, c'est un des trucs que j'ai le plus aimé au Japon. Et que ben, j'étais pas tellement allée en Chine, mais il y en a aussi où c'est des cultures du bain, du hammam, comme un peu au Maghreb. Et en fait, c'est un truc très quotidien. Les sento, c'est des bains de quartier donc, qui datent de la période où il n'y avait pas l'eau courante et les gens allaient se laver là-bas. Et mais en fait, c'est resté... Alors de nouveau, je ne connais pas assez bien la société japonaise. Là, moi, ce que je vous dis, c'est un peu... ce que j'en ai vu, mais c'est... Donc c'est séparé, t'as un côté pour les femmes, un côté pour les hommes. Et puis, alors ça, c'est la petite blague, c'est qu'en fait, là, le sento de quartier où je suis allée, c'est que t'as un sauna d'un côté et pas de l'autre. Donc tous les jours, ça change. Les hommes vont à droite le lundi, le mardi, ils vont à gauche.
Pour bénéficier du sauna ou
voilà,
pas.
Voilà, un jour sur deux. Et puis moi, évidemment, j'y suis allée deux jours de suite. Et puis évidemment, j'ai failli rentrer chez les mecs. Et petite crise... Mais en fait, t'as ce côté-là aussi quand t'es occidental là-bas, c'est que.
On t'excuse.
On t'excuse, t'es un débile, quoi.
C'est ça. Une ignorante crasse, d'ailleurs.
On espère juste que tu vas pas faire de trucs trop débiles, parce que voilà, faut rester poli avec toi. Mais... Et là, et moi, ce que j'ai vraiment aimé. Bon, t'as ce truc aussi que t'as en Chine où t'as pas de.
Au Japon, tu.
Ouais, en Chine et au Japon, dans les deux, la pudeur est très différente. Alors, t'as une immense pudeur entre hommes et femmes. Mais après, entre femmes, il n'y a pas du tout de... Bah, typiquement, avant d'aller dans le bain, il n'y a pas de cabine pour se changer comme ici. Tout le monde se déshabille dans une pièce commune. Et pff, tout le monde s'en fout complètement. Enfin, c'est vraiment pas gêné du tout. C'est très... je sais pas, c'est vachement plus simple qu'ici, je trouve. Ici, t'es toujours un peu en train de tenir ton linge, de
tes affaires, des trucs. Ouais.
Alors, où il y a une personne qui assume complètement, puis les autres qui sont hyper chaises. Et après, donc, tu rentres, c'est vraiment un truc, tu payes 4 francs pour rentrer. Donc c'est vraiment un truc hyper quotidien. T'as ton petit seau en plastique avec ton savon, ta petite lavette et tout. Et tu rentres et en fait, c'est des fous de la propreté. Donc ils passent des heures à se frotter, à se nettoyer vraiment. Puis bon, c'est vraiment chouette parce que c'est un lieu de socialisation. Et apparemment, selon Wikipédia, il y a un mot en japonais pour dire ça, la socialisation nue. Où c'est un concept où
tu crées génial,
des liens, c'est vachement bien. Tu crées des liens hyper différents si tu socialises en étant nu, quoi. Déjà, t'as plus le...
Tu m'étonnes.
La performance du vêtement et tout. Puis voilà, t'as une sorte d'intimité. Et donc, tu vas en famille, entre voisins, puis tu tchatches en te nettoyant. Puis après, t'as les bains chauds. Enfin, moi, j'adore l'eau chaude, quoi. Mais là, c'est...
Mais là, il n'y a pas une dimension spirituelle. C'est vraiment fonctionnel.
Ah ouais, complètement. Non, c'est absolument rien de spirituel.
Puis en tant qu'occidental, c'était ok d'aller...
Ouais, alors, t'as ce truc justement de différence que moi j'ai perçu fort entre la Chine et le Japon, c'est que... alors, ils mettent quand même des petits panneaux, je pense qu'ils ont eu des mauvaises expériences, donc ils mettent des petits panneaux qui expliquent en anglais quand même les... Tu dois pas rentrer dans l'eau sans être lavé avant, des choses comme ça. Et puis ça, c'est le petit truc assez drôle où tu peux pas... Tu vas pas dans les sento si t'as des tatouages. Alors après, ils font des... Parce que les tatouages au Japon, c'est beaucoup associé au crime organisé, en fait, au Yakuza. Donc t'as vraiment des restrictions. C'est écrit à Osaka, je suis allée dans un grand truc, où c'était écrit « Interdit aux personnes qui portent des tatouages et aux membres d'organisations criminelles.
» Au cas où il y en aurait une qui est pas tatouée.
Moi, j'ai pas de tatouage, mais...
C'est l'autre.
Bon, les gars, vous en faites un.
Et du coup, ils expliquent un peu toutes ces règles de base parce que... mais alors par contre, bon, je pense qu'il y a 2-3 petits regards. Il y a une dame qui était hyper contente que je sois là. Genre elle m'a fait « Enjoy your bath enfin, !» Vraiment, elle était trop contente qu'il y ait une étrangère. Mais par contre, en Chine, ce qui était drôle, c'est que en fait, les gens te fixent, te matent. Bah, ce que tu disais, ils viennent te mettre le doigt, te pointer du doigt sous ton nez, parce qu'il n'y a aucune gêne à observer, en fait, à manifester sa curiosité.
À scruter presque.
Ouais, mais vraiment. Et du coup, c'est un peu déstabilisant, parce qu'en plus, comme t'es, y a vraiment cette fascination exotique. Et moi, j'étais allée dans une piscine avec une fille blonde, allemande, et très grande. Et il y avait les nanas qui faisaient le ménage, elles s'étaient arrêtées, elles s'étaient posées pour nous regarder nous déshabiller.
Tu vas, tranquille.
Mais au bout d'un moment, tu... Voilà. Et puis, finalement, enfin... Bon, ça, c'est un peu l'anecdote que je raconte souvent, mais qui m'a marquée, qui n'est pas forcément très glorieuse, mais dans cette piscine en Chine, il y avait des douches, donc sans séparation, tout le monde se douche en même temps, il n'y a pas de maillot de bain, enfin, tu te laves. Il y avait les toilettes, et en fait, il n'y avait pas de porte aux toilettes, qui donnait directement sur les douches. Et ça, c'est un peu la limite où je me suis dit, ah, ça va être un peu compliqué pour moi quand même. Puis en fait, tu vois que les gens, ils n'en ont rien à faire. Enfin, c'est vraiment, il y a un rapport au corps. Et là, alors ça c'est des grandes théories à deux balles, mais on est quand même dans un rapport judéo-chrétien encore.
Allons-y.
qui fait qu'on est vachement coincé sur des trucs où tu vois que là-bas ils sont là, bon ben oui, mais tout le monde fait la même chose. C'est pas très intéressant quoi. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat non plus.
Ouais.
Alors qu'ici. On
est... Mais moi j'avais entendu, c'est peut-être pas du tout vrai, mais que du coup, il me semble, maintenant je sais plus si cette histoire était située en Chine ou au Japon, mais qu'il y avait même des petites musiquettes. Pour cacher le bruit du pipi, etc. Mais alors, ça, c'est un peu contradictoire avec ce que tu viens de dire.
Ça, c'est au Japon. Et elle parle de la Chine.
Et là, l'histoire des toilettes sans porte, c'était en Chine.
Mais moi, très différent à ce niveau-là.
On continue à parler toilettes, mais... mais moi, en Chine, justement, il y avait aussi ça. Donc, c'est partout où j'ai été presque, c'était des toilettes turques.
Mm-hmm.
Donc, sans cuvette, quoi. Et souvent, justement, dans les toilettes publiques, il n'y avait pas de porte.
Ouais.
Et du coup, tu faisais la queue. Et puis, ça veut dire que tu voyais déjà les gens faire, enfin, les autres femmes faire pipi. Et souvent, en fait, les femmes discutaient entre elles parce que tu fais pipi, en fait, face à là où il devrait avoir une porte. Mm-hmm. Donc, tu regardes aussi les gens qui sont, enfin, tu peux les voir, mm-hmm. les gens qui les attendent. Et du coup, il y avait plein de nanas qui tchatchaient un peu entre elles. Donc, c'était assez à l'aise.
Des paysans aussi, comme ça aussi.
Mais je trouve... Non, je m'arrête là parce que...
si j'ai lu.
Mais du coup, moi, il y a un autre élément qui me fascine assez, c'est cette notion du regard. Comme c'est quelque chose de profondément ancré et variable suivant les lieux géographiques. Moi, j'avais voyagé pas mal pendant mon adolescence en Amérique latine. Et j'allais en fait pendant un temps souvent au Venezuela. Je retournais chez des gens que je connaissais, donc j'avais une sorte de vie quotidienne là-bas. Et pour dire que j'ai pu avoir cette info qui me serait restée inconnue autrement, que je regardais complètement de travers par rapport aux modalités locales. Bah, parce qu'en fait... je pense que peut-être j'ai particulièrement une attitude de fixer les gens dans les yeux, mais c'est quand même une valeur éducative. Enfin, on te dit quand t'es petit, regarde les gens quand tu t'adresses à eux. Le fait de baisser le regard, c'est quand même un signe qui est peut-être connoté comme une gêne, une timidité, donc qu'il faut un peu braver. Et donc là-bas, voilà, j'étais là, j'offrais. Puis c'est une manière de respect en fait aussi, de considérer l'autre. Et là, c'était exactement l'inverse, en fait. C'était très agressif, ma manière de soutenir les yeux. Donc, puis je me rendais compte, il y avait la caissière au magasin qui était là, qui avait pas l'air bien du tout. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui grinçait dans mes rapports avec les gens. Et tout d'un coup, un ami m'a dit, mais c'est juste, c'est ton regard, quoi. On a l'impression que c'est agressif ou que tu veux draguer ou que, enfin, et voilà, comme c'est tellement subtil, c'est tellement fin avoir ces informations là comme on peut passer à côté aussi de plein de choses, parce qu'on n'a pas, on a des codes qui heurtent.
Et ça, je pense que c'est un gros problème. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai ressenti assez fort en Chine, que la communauté d'expats, entre plein de guillemets, que j'ai côtoyé, je l'ai trouvé insupportable. Parce que t'as ce truc maintenant avec les... J'ai l'impression que ces gens qui s'expatrient pour le boulot, en tout cas en Asie, ils ont un peu ce refus de... Ils aimeraient que tout soit facile partout, en fait. Et que c'est de la peine à comprendre, justement, ce genre de code hyper fin, hyper, et hyper important. Ben, oui, tu mets du temps à l'acquérir. Mm-hmm. Et non, c'est pas parce que la société dans laquelle t'arrives est... je sais pas agressive ou bizarre ou etc. C'est une autre manière de fonctionner entre êtres humains et ça prend du temps, quoi. Enfin, une sorte d'uniformité. On voudrait que les codes du coup soient uniformes, mais c'est pas possible. Il y a un moment où ça va être compliqué, où tu vas devoir négocier sans forcément ben, tout accepter parce que t'as aussi tes codes à toi qui comptent, mais que oui, il faut...
Mais, comme d'habitude, c'est connaître les choses pour pouvoir jouer de ses connaissances et pas être joué par tes ignorances. Donc, mais effectivement, c'est sur le long terme que ça peut se sentir. Mais quoique, là, en tout cas, t'as remarqué des différences et des choses qui venaient te chatouiller dans ton habitus à toi, quoi.
Ouais. Mais j'ai pensé à ça dans le sens où j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient « Ah, t'es allée au Japon, ça a été... » Il paraît que les Japonais sont très racistes. Enfin, il y a cette idée que les Japonais sont racistes, dans le sens qu'ils préfèrent vivre entre Japonais, en fait.
Ah, du coup, envers tous les gens qui ne seraient pas Japonais
voilà.
Ou Japonaises,
Ce serait... Ouais.
Ok.
Et moi, je suis toujours très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Déjà parce que tu dis, mais les Suisses sont pas mal dans le genre aussi, tu vois. On a voté 2-3 lois
sympathiques,
racistes. Donc c'est un peu bizarre de dire les Japonais sont racistes. Mais il y a ce truc particulier qui ressort très fort pour nous. Parce que ben déjà, ça, il y a ce côté île qu'ils ont beaucoup préservé. Et c'est vrai qu'ils sont très fermés à l'immigration. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de racisme au Japon.
L'immigration.
Oui, ouais. L'immigration. Ben. Et pourtant, ils ont des gros problèmes de vieillissement de la population. Donc ça pourrait être une solution, mais apparemment, ça, ils ne sont pas du tout ouverts à ça. Mais bien sûr, moi, je pense que le racisme, malheureusement, c'est juste humain, quoi. C'est dans le fonctionnement humain de créer un autre pour pouvoir se faire une identité.
Bon, peut-être dire plutôt ça, que le racisme n'est pas humain, mais la création de l'autre, oui. Enfin ça c'est très discutable.
Non, je suis d'accord, c'était pas bien formulé. Dans le sens, je voulais dire ça dans le sens que potentiellement un être humain peut être très con et enfin genre, ça c'est partagé partout sur la Terre, tu vois. Enfin l'intolérance et tout, c'est un truc qui est universel, j'ai l'impression. Après tu peux, tu dois la déconstruire et tu dois lutter toujours contre, mais j'ai pas l'impression. Enfin après peut-être qu'on part dans des grandes discussions, mais
c'est non, mais tant mieux. Non, mais c'est bien de partir dans les grandes discussions, mais c'est... Enfin, c'est juste, je tiens juste à dire qu'il ne faut pas mettre le racisme sur le fait que les êtres humains sont de nature débile. C'est pas naturel, c'est quand même une construction sociale qui permet, oui, de se former en tant que communauté ou de former une identité nationale ou que ce soit. Enfin, sur autre chose, mais après.
Le rapport à la différence, je pense qu'il traverse tout être humain et toute société. Qu'est-ce que tu fais de la différence? Comment tu l'as construit? Sur quels critères?
Mais je pense que c'était bien de soulever le fait de pas rendre ça
tout à fait
biologique. Ouais, effectivement.
Ouais, pas que ce soit quelque chose qui soit inhérent à notre cerveau.
Complètement. C'était juste pour dire que moi, en tout cas, en tant que blanche au Japon, je me suis jamais sentie... alors après, c'est le privilège blanc, mais moi, j'ai eu... Enfin bref, j'ai pas eu du tout ce ressenti de racisme. Mais ouais, vas-y.
Après, je trouve que c'est aussi, par exemple, moi, j'ai pas senti non plus en Chine. Il y a parfois des gens, justement, comme je disais avant, qui étaient un peu agressifs ou en tout cas qui m'envoyaient balader parce que j'étais blanche et puis voilà. Ou bien qui me pointaient du doigt, mais je trouve que c'est quelque part aussi bien en tant que blanche et blanc. Parfois de ressentir ça.
Ah, mais c'est
clair.
En fait,
ça te permet de te remettre en question et de te dire aussi...
Non, mais moi, je trouve ça... Effectivement, moi, j'ai trouvé une expérience hyper intéressante. C'est ce que je disais, c'est qu'avant de vivre en Asie un moment, je savais pas que j'étais blanche. C'était normal. Et tout d'un coup, j'ai compris que... Ben non, enfin, tu vois. Mais j'ai compris qu'il y avait une sorte de classification. Et j'ai aussi pu constater que moi, j'étais du bon côté de la classification. Alors oui, des fois, il y avait un rejet du fait de mon apparence physique. Mais qu'en attendant, le fait d'avoir un passeport suisse et la peau blanche, ça me donnait une liberté par rapport à certaines autres personnes qui étaient immenses. Et ça, j'ai trouvé vachement violent. Et je trouve vachement violent que les gens qui sont des expats, alors c'est pas que des blancs, mais c'est quand même des gens financièrement aisés en général, et c'est souvent, c'est beaucoup des blancs, intègrent pas assez ça des fois. Enfin, moi j'ai été assez choquée du racisme des expats en Chine en fait.
En Californie, vraiment j'ai ressenti un malaise un peu pendant mon voyage. Un peu comme anecdote, mais à San Francisco, il y a tous ces cafés où tu y vas et tu peux choisir entre 40 sortes de cafés et 50 sortes de manières de faire ton café. Est-ce que tu veux du slow dripping? Est-ce que tu veux du cold brew? Est-ce que tu veux... Enfin bon, déjà, en tant qu'étrangère, ça te prend juste 5 minutes de capter qu'est-ce qui se passe dans cet endroit.
Ils t'ont même mis de la menthe dans du
café. Et à un moment, et je me suis dit, là, j'ai écrit à un ami, et je me suis dit, les San Francisco commence un peu à me saouler parce qu'ils sont tellement dans le hype qu'ils me mettent de la menthe dans mon café.
C'est un peu bizarre.
C'était un petit rime en plus là.
Yeah.
Oh.
Mais non, mais pour dire que ça. Et du coup, il y a toute une énergie qui est mise dans tous ces choix en fait, parce que ça, c'est pas seulement le café après. Mais bon, le café, je trouve ça vraiment ça matérialise ce truc de perdre beaucoup d'énergie et de créer une identité dans le choix, en fait. Dans le choix, bref, dans la consommation, mais dans une consommation choisie. Puis en fait, qui n'est pas choisie.
Dans l'illusion, c'est
ouais,
ça.
Ouais, dans l'illusion. Ça. Non, mais ça m'a glauqué, quoi.
T'aimerais que les gens, ils mettent de l'énergie dans autre chose que de choisir leur café. Parce qu'on peut juste dire que toi, t'es rentré quand même... T'es rentré juste avant que les États-Unis sombrent complètement, en fait. T'as pris l'avion juste avant les élections.
Ouais.
T'as bien fait, hein.
Le jour d'avant. Je suis assez contente. Je pense que ça m'aurait... Parce que déjà, ça m'a un peu saoulée de faire 23 heures de voyage, là, porte à porte. Alors si je l'aurais fait avec...
Avec la certitude que Trump...
Bon, ça t'aurait mis un peu d'adrénaline. T'aurais eu l'impression de fuir.
Ouais.
Hein? Que chaque minute qui passait t'éloignait du mal. Mal.
Du mal.
Oui, il n'y a peut-être pas encore grand-chose de très intelligent à dire, mais c'est vrai que c'est on a enregistré cette émission le jour même, on a eu les résultats en Europe.
Oui.
Et moi, j'ai quand même cette émotion, puisque c'en est une qui m'habite, de me dire, en fait, là, il y a un homme qui a été accusé de viol par une jeune fille dont le procès n'a pas pu se dérouler tellement elle a subi de pression, donc qui a eu des attitudes de prédation sexuelle, d'harcèlement, d'insultes, etc. Et en fait, voilà, de se dire c'est des comportements qui ne sont pas si répréhensibles que ça, parce que ça permet même d'être président des États-Unis.
Mmh. Je pense qu'on se réveille aujourd'hui avec une sorte de... pas de gueule de bois, mais... Enfin, moi, c'est vraiment... j'ai l'impression de m'être baignée dans de la salive de limaces, quoi.
Ouais, c'est assez une bonne description de la sensation.
Ça fait vraiment froid dans le dos. Et c'est assez vertigineux. Et on verra bien ce qui va se passer, mais c'est... Ouais, je pense que c'est vraiment la crainte, en fait, là, maintenant.
Oui.
Ouais, ouais, la peur, exactement. Mm-hmm. Puis un niveau aussi plus large, tu vois, en termes de...
Et après, juste personnellement, de devoir médiatiquement voir la tête de ce personnage.
Je disais ça, c'est bien. Exactement ce qu'elle m'a dit récemment. C'est une sale gueule, ça va
être... Non, mais ouais. Ça va me coûter.
Ah, puis on a... Ouais.
Il va falloir trouver des stratégies pour éviter, quoi. Mais peut-être pour pas finir sur cette note.
Oui, ne lui donnons pas cette place.
Une dernière chose par rapport au voyage et à mon voyage à San Francisco, c'est que j'ai été à la géniale Californian Academy of Science, qui est un musée où il y a à la fois tout un aquarium de corail, il y a une fausse forêt tropicale, mais une forêt tropicale recréée.
Mmh. Là, il y a les yeux de Lynn qui brillent, c'est assez intense.
Il y a un alligator albinos qui ressemble à un piment doux qui a trempé dans de la vinaigre, c'est génial, dans du vinaigre. Il y a une maison qui reproduit un earthquake. Et
c'est quoi,
il y a un earthquake, c'est un tremblement de terre.
Ah, ok.
Et il y a un planétarium, c'est-à-dire un dôme où ils projettent des films sur l'espace. Mmh. Et du coup, tu as l'impression de voyager dans l'espace.
Wow.
Et je trouve ce qui est génial avec donc les documentaires sur l'espace et surtout sur ce truc de voyager dans l'espace et d'apprendre des choses sur l'espace, ça permet de se remettre complètement en question.
Mais voilà.
Et de remettre en question ses représentations. Et voilà le lien entre voyage intergalactique et féminisme.
Bravo!
C'est
Mais d'ailleurs, tu sais ce qu'on mettra sur le post-pod, cette vidéo incroyable.
Oui, hein, la fille qui se brosse les dents dans l'espace.
Ouais, avec ses cheveux comme ça et tout. Et j'adore ce truc, je me couche et je ne sais pas si je suis en haut, en bas, hein, et voilà. Et c'est le...
Tout est remis en perspective.
Alors ça, c'est vachement queer comme quotidien.
Ouais.
J'adore ça. L'espace, la Terre a peut-être encore des problèmes, mais l'espace est queer. Alors, et en fait, j'aimerais juste dire que l'espace s'expand de manière peut-être infinie. Alors, assurément, si l'espace est queer, ça va, on a encore de l'espoir. Tiens, Trump dans ta gueule.
Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique.
Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur notre site crépidule.com avec crépidule au pluriel. Vous y trouverez aussi des publications post-pod avec des liens et des infos sur les thématiques abordées. Ciao !